Vous écoutez
RMC.
Avec David Guzman, avec Maxime Chanot, l'Afterfoot en direct sur RMC, en direct également sur Afterfoot TV et en direct bien sûr sur la chaîne YouTube de l'After. Nous sommes ensemble pendant une heure encore jusqu'à minuit. Le 32-16 est ouvert bien sûr, le numéro WhatsApp de l'After également pour vos messages, le 06 12 424 424. On va parler à présent dans l'After des Girondins de Bordeaux dont l'avenir a encore connu des rebondissements ces dernières heures. Pour rappel, à quelques semaines de la reprise des championnats, on ne sait toujours pas dans quelle division joueront les Girondins l'an prochain, puisque le club risque l'exclusion des compétitions nationales et même la liquidation judiciaire. Pour en parler, pour résumer l'actualité bordelaise, j'accueille avec joie Corentin Roland. Salut Corentin.
Bonsoir Christophe, bonsoir à tous.
Alors hier soir, on a appris que le CNOSF avait rendu un avis défavorable sur la demande des Girondins de réintégrer les championnats nationaux.
Oui, c'est au départ un avis à titre consultatif, c'est important de le préciser, donné par le Conseil National Olympique et Sportif Français, le CNOSF. Il va dans le sens de la décision prise par la DNCG d'exclure Bordeaux des championnats nationaux en raison donc de leurs difficultés financières. Malgré le départ de Gérard Lopez, malgré l'arrivée du fonds d'investissement britannique Sparta Capital et malgré aussi l'annonce de ce nouvel investisseur d'avoir réuni 10,6 millions d'euros pour éponger les dettes et financer la prochaine saison. Aujourd'hui, la Fédération Française de Football s'est rangée derrière la recommandation du CNOSF. Et la situation sportive, pour le moment, c'est donc que Bordeaux est inscrit en Régional 1, qui est donc le sixième étage du foot français.
Et Corentin, cet avis du CNOSF a bien sûr généré énormément de réactions aujourd'hui.
Oui, d'abord celle du club étonné. Je cite le communiqué d'aujourd'hui de cette orientation, alors que des garanties financières particulièrement importantes ont été apportés et le risque a été mentionné clairement dans ce communiqué, celui d'une liquidation judiciaire, tout simplement. Le maire de Bordeaux, Thomas Cazenave, s'est entretenu en parallèle avec Philippe Diallo. Il a appelé sur Sud-Ouest les instances françaises à la responsabilité. Et le mot de la fin pour le futur président du club, Dominique Delport, qui a annoncé à nos confrères de l'équipe et Sud-Ouest déposer un autre recours, un référé au tribunal administratif dès ce lundi, avec l'espoir que celui-ci reconnaisse le sérieux du plan de reprise de Sparta Capital. Là où le CNOSF ne pouvait s'appuyer en réalité que sur les éléments fournis par la DNCG. Mais ça fait encore une procédure, alors qu'on va le dire, mais dans le calendrier officiel, la reprise bordelaise en R1, elle est prévue dans deux semaines, le 29 août.
Merci beaucoup Corentin pour le rappel des faits. Supporters bordelais, n'hésitez pas à composer le 32-16. David, j'ai envie de t'entendre en premier. Hein. Tu connais parfaitement le dossier de Bordeaux.
Mais il était très bien déjà résumé par Corentin, mais en fait, si tu veux, moi, je suis très partagé sur cette décision. J'ai ma casquette de juriste et ma casquette de banquier capitaliste pro-business. Ma casquette de juriste me dit que la décision du CNOSF est juridiquement difficilement contestable. Pourquoi ? Car le CNOSF se doit et tenu de refuser tout élément nouveau après la DNCG d'appel. Et il est vrai, et c'est incontestable, que la structure financière de l'acquisition a été modifiée entre l'appel et la présentation au CNOSF. Pourquoi ? Car il y a tout simplement des nouveaux investisseurs qui sont arrivés. Donc, oui, juridiquement, le CNOSF a pris une décision ou a interprété le texte de façon défavorable aux Girondins, mais de façon justifiable. Oui, Sparta Capital aurait pu être prêt avant. On peut leur faire le procès de se dire, de toute façon, vous n'aviez qu'à être prêt, vous n'aviez qu'à pas étendre les délais. Si vous aviez réuni les fonds en appel, nous n'aurions pas cette discussion. Mais après, j'ai aussi envie de prendre un peu de recul, et c'est pas du tout parce que je suis supporter des Girondins de Bordeaux. J'aurais dit exactement la même chose pour l'Olympique de Marseille, pour Étancourt-Neuville ou pour l'Olympique de Saint-Quentin, pour n'importe quel club français, j'aurais dit exactement la même chose. C'est que maintenant, pour une interprétation défavorable mais juste du texte de loi, on va empêcher un investisseur dans le foot français en 2026 où on a un besoin impérieux de fonds, un investisseur qui a garanti, pas 10 parce que tu as raison, la saison prochaine est garantie, mais plus de 20 millions d'euros. C'est-à-dire qu'il y a 3 saisons, trois années d'exploitation qui sont garanties, puisque en plus des 10 millions d'euros qui sont en séquestre, il y a une lettre de crédit qui est émise par la banque JP Morgan, qui est une banque de ce qu'on appelle de tier one, donc de meilleure qualité, pour financer trois ans d'exploitation. Donc d'un côté, il y a le texte de loi que je comprends, et d'un autre côté, on va refuser à des investisseurs. On va peut-être punir Gérard Lopez à travers Sparta Capital, alors qu'il y a plus de 20 millions d'euros qui sont sécurisés, alors que pour une fois, il y a des investisseurs en quatrième division qui veulent investir. Alors ok, il y a le texte de loi, et le texte de loi, je ne le conteste pas. Mais si on prend un peu de recul, si on regarde un peu, si on élargit la focale au contexte économique du football français, on a vraiment envie de laisser des investisseurs dehors. Et je vais même aller plus loin, et je vais en terminer par là. Moi, tu te souviens, Christophe, je l'avais dit dans l'after, je suis même sceptique sur la réussite sportive de leur projet. La data en N2, je suis pas forcément convaincu. La première sortie sur les réseaux sociaux, j'ai beaucoup plus été convaincu par l'interview qu'il vient de donner à Sud-Ouest que par sa sortie sur les réseaux sociaux. Je suis un peu sceptique sur la pertinence de leur projet. Mais qu'on leur donne leur chance et qu'on ne juge pas Sparta Capital à travers la lorgnette Gérard Lopez, parce que ce sont deux projets totalement différents. Donc voilà, juridiquement ok, d'un point de vue économique, casquette de banquier un peu moins.
Bah écoute, je pense que tout a été bien résumé par un David notamment, hein, qui saigne pour son club actuellement.
Je non, sais mais que, je l'aurais dit pour n'importe quel club, Max. Que je l'aurais dit pour n'importe quel club.
Ouais, honnêtement, je sais pas quoi dire. Bon, j'ai juste vu que Rio Mavuba avait quitté le navire, hein, pour potentiellement s'engager avec le centre de formation du LOSC. C'est un retour pour lui du côté de Lille. Mais c'est vrai que ce qui se passe à Bordeaux, c'est vraiment. J'ai parlé de l'Olympique de Marseille hier et de Muppet Show. Bah écoute, on n'avait pas loin aussi un côté bordelais. Alors, il faut savoir que Gérard Lopez, tu sais, il habitait à Los Angeles et je le voyais.
Il habite un peu partout. Hein.
Ouais, mais en tout cas, il est luxembourgeois en plus comme moi et il habitait du côté de Los Angeles, donc il venait souvent voir nos matchs et il était assis comme un pacha au stade, c'était exceptionnel, alors que le club de Bordeaux, ah ça je sais pas, il est toujours installé à côté de la buvette en plus,
sur 10 ans,
club,
non, il payait 10%
alors
sur 10
que
ans,
le club de Bordeaux en fait. Était en train de couler, il était en train de boire ses bières, ah, c'était fantastique.
Là, vous pouvez aller voir d'ailleurs nos auditeurs, il y a un site internet qui s'appelle GL27, ouais. Où il fait du buggy dans le désert, ou alors en fait, bah, bien évidemment il a attendu le dernier moment parce qu'il voulait pas que les gens réussissent après lui, pour annoncer, d'ailleurs c'est aussi lié à ça, les difficultés de Sparta Capital, c'est qu'il a attendu le dernier moment pour s'asseoir sur sa clause de retour à meilleure fortune, son compte courant d'actionnaire. Mais là, maintenant, il s'est lancé dans le buggy et je vous conseille d'aller voir la partie autobiographie de son site. Tu fermes les yeux, t'as l'impression que c'est Enzo Ferrari.
Allez, on accueille Marc, supporter des Girondins, qui a composé le 32-16. Salut Marc, bienvenue dans l'After.
Bonsoir messieurs.
Salut Marc. Salut Marc. Ça va très bien. Et toi, comment tu vis ces moments très compliqués pour ton club?
Oh, je suis assez blasé, mais je crois que ça fait un long moment que je suis blasé. J'y crois plus depuis la fin de saison. Je pense que c'est trop long. Comme vous l'avez dit, Lopez, il a mis trois plombes à t'asseoir sur. J'ai l'impression qu'il attendait le dernier moment, mais j'ai l'impression qu'on attend toujours le dernier moment depuis. C'est quand que Lopez est arrivé? 2018, un truc comme ça?
Non, 2021. 2021,
voilà. J'aurais même plus. C'était il y a longtemps.
Non, ça paraît long, je sais.
Ouais, il y a ta grosse avant et compagnie. Mais en fait, j'y crois plus trop. Donc, en fait, le CNOSF a donné un avis négatif. Donc, j'ai pas envie de revenir sur un truc qu'ils ont déjà dit. À chaque fois, les autres clubs râlent en disant Bordeaux est protégé, Bordeaux est protégé. Ça va encore partir en administratif, mais ça devient chiant. Ça devient chiant. J'ai envie de dire, arrive un moment, faut aussi que les choses se passent en temps et en heure, on est toujours au dernier moment, toujours à la limite, et les championnats reprennent dans une ou deux semaines. Ça devient du grand n'importe quoi, donc à un moment, faut aussi prendre des décisions, et quand on n'est pas à l'heure au rendez-vous, on peut pas toujours espérer le dernier recours du dernier recours du dernier recours du dernier recours qui nous sauve. Alors c'est catastrophique, parce que ça veut dire qu'il y a des employés qui vont finir encore. On a encore des gens qui vont perdre leur taf, des journalistes qui vont perdre leur taf. On va avoir un stade qui va arrêter sur le dos de la municipalité, de la communauté.
Je pense que la municipalité peut faire un geste et laisser jouer. Ça a déjà été fait ailleurs et laisser le club jouer gratuitement. Notamment pour régler la question du conflit entre supporters.
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est le stade. Le stade qui coûte une blinde à la collectivité.
De toute façon, R1 ou N1, de toute façon,
Ouais, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux plus potentiellement te dire, allez, R1, National, ça remontera. Là, tu redescends encore plus bas. Combien de temps tu vas mettre pour monter? T'as un stade qui va servir à que dalle parce que même le rugby veut pas y jouer. Voilà, mais on peut pas. Enfin, moi, je suis à la place de la FFL, je vais pas toujours dire oui, mais c'est Bordeaux, Bordeaux est grandi, etc.
Mais Bordeaux a pas été persécuté du tout là. C'est juste une interprétation rigoriste de la loi, mais la loi a été correctement interprétée.
Et David, ma question, est-ce que la donne aurait été différente si Bordeaux était monté en Ligue 1 et notamment ce qui s'est passé avec l'arrêt de match contre Rodez.
Bah après, en fait, si tu veux, tu sais, il fallait gagner par 5 buts d'écart pour monter. Après, c'est toujours facile, en fait, si tu veux, de refaire l'histoire. Est-ce qu'en Ligue 1, tu sais, maintenant, t'as plus énormément de droits télé. Mais après, tu peux te dire que le club aurait été plus attractif, que Lopez aurait pu attirer des investisseurs minoritaires. Mais surtout, Marc, est-ce que toi, c'est une question que je vais te poser, moi, ce qui me fait encore plus peur que la R1, c'est la R1 sans projet défini et précis de reprise. C'est-à-dire que moi, en tant que supporter des Girondins, je sais pas si tu partages mon point de vue, je m'en fiche de repartir en R1. Mais il faudra avoir en R1 une figure économiquement et sportivement et politiquement incontournable. Et à Bordeaux, nous n'avons ni Marc Keller, ni Thierry Gomez. À chaque fois que le club est vacille, nous avons toujours les mêmes personnes qui veulent être toujours sur la photo, sans oseille. Et moi, c'est de ça que j'ai peur. C'est que même en cas de descente en R1, j'attends toujours celui qui ralliera tout le monde à sa cause et qui sera incontournable pour reconstruire.
J'ai envie de te faire un parallèle. On n'a pas besoin de millions, pas besoin de 100 millions pour fonctionner aujourd'hui au Girondins de Bordeaux, surtout si on repart à zéro. Il y a un club de rugby qui marche assez bien en basant son projet sur le local et avec des investisseurs locaux, etc. Peut-être qu'il va falloir aussi regarder de ce côté-là et voir ce qui a marché, parce que je me souviens d'une époque où Dacosa et puis ensuite Monsieur Gérard Lopez rayonnaient de Marty, de son modèle économique. Enfin, s'il y en a un qui marche aujourd'hui en termes de modèle économique, c'est celui-là. Donc, on va peut-être falloir se dire que, bon, tant qu'on n'est pas en Ligue 1, ça sert à rien de voir les 60 millions de budget et repartir en disant, mais plus travailler avec le local, parce que moi, je me souviens, il y a 10-15 ans, où on disait, bon, ne travaille pas avec le local, dans le recrutement, c'était du grand n'importe quoi, on va toujours chercher du côté de Paris, etc., mais avec les clubs locaux, c'était catastrophique. Moi, je me souviens avoir rencontré des clubs locaux de Bordeaux, hein, donc Mérignac, etc., qui disaient, on n'a plus de connexion avec le club. Donc il va falloir se remettre à travailler correctement dans ce club, un bon fond pour tout. Alors, sur ces dernières années, je dois avouer, je sais pas comment ça se passe avec les clubs aux alentours, il va falloir retravailler correctement. Donc j'ai envie de te dire aujourd'hui, si ça coule, le temps, là, attention, ça va être ceux qui sont dans l'association qui vont reprendre le trio et compagnie. Il va falloir remettre quelqu'un à la tête, repartir sereinement, ce qu'on aurait dû faire il y a déjà quelques années avant que Lopez arrive, à la sortie du Covid, et repartir sur des scènes basses, parce que ça devient n'importe quoi. J'en ai marre que chaque année, soit le sketch de on démarre la saison. De toute façon, notre saison, elle démarre en juin, au moment où on fait le budget. Et l'autre question qu'il faudrait quand même qu'on se pose une fois pour toutes dans le football français au général, la DNCG qui intervient à la fin de la saison pour dire toi tu coules, toi tu t'écoutes et toi tu coules, en sachant qu'à l'échelon inférieur, les budgets vont encore être moins élevés, mais par contre, la que d'autres payer et consommer le club, c'est toujours présent, ça marche pas. Donc soit il y a une DNCG forte au démarrage qui calibre bien les choses, histoire qu'à la fin de l'année, il n'y ait aucune surprise pour tout le monde. Ça, il faut se poser des questions.
Mais la marque, c'est juste un actionnaire. En fait, c'est juste un... Là, de toute façon, au niveau amateur, tu as besoin d'une injection de fonds de l'actionnaire, dont la DNCG peut faire n'importe quoi. Si l'actionnaire décide de ne pas remettre au pot, il décide de ne pas remettre au pot. Enfin, tu vois, ils sont suspendus à une injection d'actionnaire.
En vrai, c'est quand même malheureux qu'à ce niveau-là, dans le championnat français, on a besoin d'actionnaires qui remettent au pot.
Bah non. Merci beaucoup, Marc, en tous les cas, d'avoir composé le 32-16. Et bon courage à toi et à tous les supporters des Girondins. On attendra la décision définitive, en tous les cas, concernant donc l'avenir de ce club historique de notre championnat. Corentin, merci beaucoup d'avoir passé une tête dans l'after. Max et David, je vous garde, bien évidemment. On va parler de l'Olympique de Marseille dans un instant sur RMC dans la After, ne bougez pas.